Oui, Éternel, notre Dieu, nous nous tournons vers toi et nous nous disposons à l'écoute afin que l'esprit de lumière et de vérité éclaire pour nous les mots de la Bible et que nous y entendions ta parole de vie. Conduis-nous dans la vie et la vérité. Amen. Avant de lire le texte de ce jour que vous avez sur les feuilles de culte, je vous propose une rapide traversée de l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, puisqu'il s'agit aujourd'hui du jeu de Joseph, interprète des songes. L'histoire de Joseph, c'est une longue histoire. Le cycle qui raconte l'histoire de ce patriarche est le plus important du livre de la Genèse. Il comporte 14 chapitres, du chapitre 37 au chapitre 50. Joseph est le fils de Jacob, dont nous avons parlé dimanche dernier. Sa mère est Rachel, l'épouse chérie de Jacob, qui a d'abord dû épouser Léa, la sœur aînée de Rachel, avant de pouvoir se marier avec Rachel. Léa a donné plusieurs fils à Jacob, mais Rachel est restée longtemps stérile avant de donner naissance à Joseph, puis à Benjamin. Jacob lui a engendré en tout 12 fils de ses épouses et de leurs servantes. Et tout comme Jacob avait été le préféré de sa mère Rebecca, Joseph est le préféré de son père Jacob, ce qui ne manque pas de susciter la jalousie de ses frères, d'autant plus que Joseph rêve. Il rêve que les gerbes assemblées par ses frères dans les champs s'inclinent devant la sienne, celle qu'il a lui-même rassemblée. Il rêve que le soleil, la lune et les étoiles, autrement dit son père, sa mère et ses frères, se prosternent devant lui. Joseph rêve et raconte ses rêves à ses frères, qui eux, bien sûr, ne rêvent que de se débarrasser de lui. Ils finissent par le jeter dans une citerne, puis par le vendre à des marchands qui l'emmènent en Égypte. Et les frères font croire à leur père Jacob que Joseph a été dévoré par une bête sauvage. En Égypte, Joseph est acheté par un fonctionnaire du Pharaon, nommé Potiphar. Il devient intendant de la maison de Potiphar et gère magnifiquement bien ses affaires. Seulement Potiphar a une épouse qui cherche à séduire Joseph, un jeune homme d'une très grande beauté, précise le texte. Et comme Joseph la repousse, elle l'accuse d'avoir cherché à lui faire violence. Et Joseph est jeté en prison. Là, il interprète les rêves de deux autres prisonniers qui étaient au service de Pharaon, l'un comme échanson, c'est-à-dire sommelier, l'autre comme panetier, le boulanger. Et l'interprétation de leurs rêves par Joseph concerne l'avenir de ces deux hommes, et cette interprétation s'avère exacte. Le boulanger est exécuté, mais l'échanson est rétabli dans son office et bien sûr promet à Joseph de parler en sa faveur, ce qu'il oublie de faire. Joseph reste donc en prison, même s'il devient serviteur du chef des gardes. Il y reste jusqu'au jour où Pharaon rêve. Deux rêves qui le troublent beaucoup et que les mages et les sages de sa cour échouent à interpréter. Alors, l'échanson se souvient de Joseph et il en parle à Pharaon. Et c'est donc là que commence le texte que nous lisons ce matin, au chapitre 41, à partir du verset 14, vous avez jusqu'au verset 36 sur les feuilles. Si quelqu'un n'a pas de feuilles, il en reste sur la table du fond. Alors le pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir du cachot en toute hâte. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit auprès de Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph : « J'ai fait un rêve. Personne ne sait l'interpréter, mais j'ai appris qu'il te suffit d'entendre un rêve pour l'interpréter. » Joseph répondit au Pharaon : « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Le Pharaon dit alors à Joseph : « Dans mon rêve, je me tenais au bord du Nil. Sept vaches grasses et de belle apparence sont montées du Nil et se sont mises à paître dans les marécages. Puis sept autres vaches sont montées derrière elles, maigres, d'apparence fort vilaine, efflanquées. Je n'en ai jamais vu d'aussi vilaine dans toute l'Égypte. Les vaches efflanquées et vilaines ont mangé les sept premières vaches, celles qui étaient grasses. Celles-ci sont entrées dans leurs panses sans qu'on puisse savoir qu'elles y étaient entrées. Elles étaient aussi vilaines qu'auparavant. Là-dessus, je me suis réveillée. J'ai vu encore ceci en rêve. Sept épis montés sur une même tige, pleins et beaux. Puis sept épis racornis, maigres, brûlés par le vent d'est, ont poussé derrière eux. Les épis maigres ont englouti les sept beaux épis. Je l'ai dit aux mages, mais personne n'a su me l'expliquer. Joseph dit au Pharaon : Le rêve du Pharaon ne fait qu'un. Dieu indique au Pharaon ce qu'il va faire. Les sept belles vaches sont sept années. Les sept beaux épis sont sept années. C'est le même rêve. Les sept vaches efflanquées et vilaines qui montaient derrière les premières sont sept années. Et les sept épis vides brûlés par le vent d'est seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a montré au Pharaon ce qu'il va faire. Sept années de grande abondance arrivent pour toute l'Égypte. Sept années de famine les suivront, et on oubliera en Égypte toute cette abondance. La famine réduira le pays à rien. On ne verra plus aucune trace de l'abondance dans le pays, tant la famine qui la suivra sera sévère. Si le rêve s'est répété au Pharaon par deux fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu va se hâter de la faire. Maintenant, que le Pharaon trouve un homme intelligent et sage et qu'il le nomme intendant de l'Égypte. Que le Pharaon agisse et qu'il nomme des inspecteurs dans le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui arrivent, qu'il fasse sous l'autorité du Pharaon des réserves de blé et de vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces vivres seront en dépôt pour le pays en vue des sept années de famine qu'il y aura en Égypte, afin que le pays ne soit pas décimé par la famine. » Voici donc un texte, un rêve, qui emmène le lecteur du côté de l'économie et du politique. Ce ne sont pas des domaines étrangers à la théologie, car la théologie, qui est une parole au sujet de Dieu, est forcément aussi une parole au sujet du monde et de ce qui fait tourner le monde plus ou moins rond, plus ou moins bon. Les Écritures regorgent de paroles politiques et économiques, celles des prophètes, en particulier Amos ou Ésaïe, celles de Jésus de Nazareth également, et pas seulement sur la question de l'impôt dû à César. Les deux rêves de Pharaon sont interprétés par Joseph comme la double annonce d'une période d'abondance suivie d'une période de disette, de famine. D'ailleurs, l'expression « les années de vaches maigres » est passée dans le langage courant jusqu'à aujourd'hui. Elle vient de là. Joseph commence par préciser que le rêve vient de Dieu. C'est donc Dieu qui prévient le pharaon souverain d'Égypte que viennent 7 années de récolte abondante, mais qu'elles seront suivies de 7 années de disette, de 7 années sans récolte et de famine. 7 années fastes, 7 années terribles. Il suffit que la crue du Nil ne survienne pas pour qu'il n'y ait pas de récolte. Ces variations de crue du Nil entraînent soit la prospérité, soit la pénurie. Et 7 années sans récolte, c'est trop. L'Égypte pourrait en être anéantie. La famine, la misère, bien sûr, mais aussi des troubles intérieurs. Peut-être une révolte ou une guerre à l'extérieur pour tenter de prendre au-delà des frontières ce qui manque à l'intérieur. Dieu prévient, dit Joseph, et cela signifie d'abord que Dieu se soucie de l'Égypte. Nous connaissons nous aussi les aléas climatiques. Un gel tardif, un orage de grêle violent et les récoltes sont perdues. Avec le changement climatique, avec les déficits de pluie, les nappes phréatiques insuffisamment remplies, les sécheresses renouvelées d'une année sur une autre. Les années où tout va bien, les années fastes, cela paraît tellement normal qu'on en parle peu ou pas. Mais les années de sécheresse, les plaintes abondent. Il n'y a plus de saison. Et puis le manque à gagner. Et puis les prix qui grimpent. Et puis la menace de la faim. Et pour certains, la réalité de la faim. Et le futur est très angoissant quand la nourriture manque. Quand on se dit que le lendemain connaîtra la même pénurie que le jour en cours. Et que le surlendemain, à quoi ressemblera le surlendemain ? Un tel texte nous aide à réfléchir à nos angoisses, celles qui naissent et sont entretenues par les informations presque quotidiennes, la banquise d'été réduite à rien, le mois de juin le plus chaud sur la terre, le record de chaleur battu dès le lendemain de son établissement. Alors voilà, Dieu se soucie de l'Égypte, un pays tourné pourtant vers d'autres dieux. Par exemple, la déesse Hathor, déesse de la fécondité et de la fertilité, dont le symbole est une vache. Ou encore Osiris, dieu de la végétation, de la mort et de l'au-delà, dont le symbole est un épi. Dieu se soucie de l'Égypte où aucun mage, aucun sage n'a pu interpréter les rêves qui inquiètent le pharaon. Et Joseph, l'hébreu, esclave et prisonnier, explique au pharaon ce que signifient ses rêves. Et il fait même plus que de les interpréter. Joseph propose au pharaon une voie qui permettra que l'Égypte traverse les 7 années de famine sans trop de dommages. Car il s'agit de ne laisser personne de côté. Il y a toujours des solutions au profit de quelques-uns, au prix du sacrifice de beaucoup. Mais Joseph est clair, c'est aussi Dieu qui donnera une réponse favorable, c'est-à-dire une réponse pour la paix. Le shalom est inscrit dans le texte. Et la sagesse et l'intelligence de Joseph sont mises au service de Pharaon et de l'Égypte. Joseph conseille. Et son conseil est avisé. Faire des réserves pendant les années d'abondance en prévision des années de famine, quand les récoltes manqueront. Approvisionner toute la population d'Égypte, pas seulement le pharaon, les prêtres, les nobles et les puissants. Toute la population. Le stockage des produits de récolte préconisé par Joseph ne vise pas à l'accumulation ni à l'enrichissement. ce qui ne sont pas des comportements positivement connotés dans les Écritures. Par exemple, lorsque Jésus raconte la parabole d'un homme qui accumule tant et tant dans ses richesses qu'il a besoin de construire un entrepôt supplémentaire, mais voilà, la nuit même, la mort l'emporte. Le stockage conseillé par Joseph vise à la redistribution. Le conseil de Joseph invite à la solidarité pour les années futures, afin qu'il y ait un avenir, afin que l'Égypte ne soit pas anéantie par la catastrophe. Le conseil de Joseph se situe dans l'incarnation par Joseph du souci de Dieu pour l'Égypte. Il en représente la réponse humaine, l'engagement pour la vie des Égyptiens et pour le shalom, la paix. Joseph se dispose en coopération, lui l'hébreu, avec les Égyptiens. Lui le prisonnier indique au Pharaon une voie d'avenir et c'est peut-être bien la seule qui vaille. Mais pourquoi sauver l'Égypte ? L'Égypte, le pays de l'esclavage, dont un autre pharaon à la nuque raide a multiplié les obstacles, les refus de laisser partir le peuple hébreu conduit par Moïse. Tout le cycle de Joseph affiche une égyptophilie surprenante. L'Égypte ne serait pas seulement le pays de l'oppression, mais un pays où il est aussi possible de vivre dans la foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un pays où il est possible de s'y installer et d'y vivre de manière heureuse, comme en terre promise. Plus tard dans le récit, en raison de la famine en Canaan, toute la famille de Jacob, d'Israël, puisque c'est le nouveau nom du patriarche, toute la famille de Jacob émigrera en Égypte et y sera reçue avec joie et avec honneur de la part de Pharaon. Le cycle de Joseph parle d'une Égypte terre de salut. Ce qu'un autre Joseph bénéficiera, ce dont un autre Joseph bénéficiera avec Marie, son épouse, et le petit enfant qui est né au temps du roi Hérode. L'évangéliste Matthieu, en écho à la saga de Joseph, reprend ce motif de l'Égypte terre d'asile pour l'inscrire dès le commencement de l'évangile dans cette dimension juste de la bonne nouvelle qui est celle de l'universel. L'universel de toutes les nations, de toute la terre habitée, au bénéfice du Dieu bienveillant et généreux. L'histoire de Joseph est une histoire profondément inclusive. Elle ne se cantonne pas à l'intérieur des frontières ethniques, religieuses ou politiques. Face à toutes les réactions de repli sur soi qui ont laissé de profondes traces dans les Écritures hébraïques et dans certaines théologies chrétiennes, l'histoire de Joseph raconte un autre possible en accueil et en reconnaissance, en hospitalité, en solidarité. Impossible d'hier, impossible pour aujourd'hui. La coopération entre l'hébreu et l'égyptien, l'action coordonnée de tous, sans aucune magie ni intervention divine, permettent de surmonter la crise grâce au choix de la vie des vivants, qui est le choix de Dieu, un choix auquel tous sont conviés à s'associer. Et nous aussi, à la suite du Christ, rencontrant et se reliant à la femme samaritaine, à la femme syrophénicienne, des femmes étrangères qu'il n'aurait pas dû fréquenter. La solidarité passe par les réserves que Joseph recommande au Pharaon de constituer en prévision de la famine, en prélevant un cinquième des récoltes des années abondantes. C'est-à-dire que pendant les années d'abondance, il s'agira de ne pas tout consommer, de mettre en œuvre une sorte de retenue, de sobriété, pour le dire avec un terme contemporain. La sobriété sert le partage, même en différé. Car elle prend en compte les limites des ressources et les limites de l'humain. Elle prend en compte le plus grand nombre et le temps qui vient. Elle prend en compte la justice, qui est attention portée aux plus petits et aux plus démunis. En ce sens, la sobriété n'est pas une privation, mais une ouverture, la place laissée à autrui. Elle participe à cette lucidité évangélique qui fait voir le monde tel qu'il est, non pour le fuir, ni pour le condamner, mais pour y prendre part en veillant à la part d'autrui. Elle participe à cet état d'esprit évangélique qui se tourne vers le recevoir plutôt que vers le prendre, et que, par exemple, la scène, le repas du Christ, met en scène dans sa liturgie et dans les gestes qui l'accompagnent. Alors, bien sûr, il est possible de critiquer le conseil de Joseph. Ne serait-ce parce que nommer des inspecteurs, collecteurs d'une part des récoltes, c'est prendre le risque de l'abus et de la corruption. Mais l'orientation du conseil de Joseph, c'est celle du souci pour tous. Elle est du côté de la vie des vivants. Et même, et la suite du récit que vous pouvez lire nous le fait connaître, elle profitera à plus qu'aux Égyptiens. Le récit raconte que la famine arrivant, elle frappe aussi les peuples environnants, les peuples voisins de l'Égypte, qui viendront s'y approvisionner lorsqu'il n'y aura plus rien chez eux. Ainsi, l'Égypte reste un pays en relation avec d'autres, non pour la guerre, mais pour la paix, en permettant une stabilité contre le désespoir et pour la justice dans une période de crise, c'est-à-dire une période dangereuse. La sagesse et l'intelligence de Joseph manifestent dans le conseil qu'il donne au Pharaon, lui vaudront de devenir ministre, premier ministre en Égypte. Joseph, d'abord jeté dans une citerne par la jalousie de ses frères, puis jeté en prison par la convoitise et le mensonge de la femme de Potiphar, devient celui qui participe à la possibilité de l'avenir et à sa construction. Il devient bénédiction pour l'Égypte. Et l'Égypte deviendra à son tour bénédiction pour la famille de Joseph et pour d'autres peuples. Celui dont on avait voulu se débarrasser va mettre en œuvre ce qui sauvera l'Égypte et d'autres nations et sa propre famille. Il est celui qui, sans encore le savoir, prépare la réconciliation avec ses frères. Parce que l'Esprit, le souffle du shalom, de la paix, œuvre en lui. Un souffle de sagesse et d'intelligence, un souffle de conseil et de vaillance, un souffle de connaissance et de crainte de l'Éternel, selon le beau poème du prophète Ésaïe, ce souffle qui reposera aussi sur Jésus de Nazareth, mais qui, aujourd'hui et pour demain, passe aussi en chacun de nous. Amen.